Jules Verne, sans dessus-dessous, chapitre 7, dans lequel le président Barbicane n'en dit pas plus qu'il ne lui convient d'en dire. Le 22 décembre, les souscripteurs de Barbicane & Co. furent convoqués à l'Assemblée générale. Il va sans dire que les salons du Gun Club avaient été choisis pour lieu de réunion dans l'hôtel d'Union Square. Et en vérité, c'est à peine si le Square lui-même eût suffi à enfermer la foule empressée des actionnaires. Mais le moyen de faire un meeting en plein air, à cette date, sur l'une des places de Baltimore, lorsque la colonne mercurielle s'abaisse de 10 degrés centigrades au-dessous du zéro de la glace fondante. Ordinairement, le vaste hall du Gun Club, on ne l'a peut-être pas oublié, était orné d'engins de toutes sortes empruntés à la noble profession de ses membres. On eût dit un véritable musée d'artillerie. Les meubles, eux-mêmes, sièges et tables, fauteuils et divans, rappelaient par leur forme bizarre ces engins meurtriers qui avaient envoyé dans un monde meilleur tant de braves gens dont le secret désir eût été de mourir de vieillesse. Eh bien, ce jour-là, il avait fallu remiser cet encombrement. Ce n'était pas une assemblée guerrière, c'était une assemblée industrielle et pacifique qu'Impey Barbicane allait présider. Large place avait donc été faite aux nombreux souscripteurs accourus de tous les points des États-Unis. Dans le hall, comme dans les salons y attenant, ils se pressaient, s'écrasaient, s'étouffaient, sans compter l'interminable queue dont les remous se prolongeaient jusqu'au milieu d'Union Square. Bien entendu, les membres du Gun Club, premier souscripteur des actions de la nouvelle société, occupaient des places rapprochées du bureau. On distinguait parmi eux, plus triomphants que jamais, le colonel Bloomsbury, Tom Hunter aux jambes de bois et leur collègue le fringant Bilsby. Très galamment, un confortable fauteuil avait été réservé à Mrs. Evangelina Scorbitt, qui aurait véritablement eu le droit, en sa qualité de plus forte propriétaire de l'immeuble arctique, de siéger à côté du président Barbicane. Nombre de femmes, d'ailleurs, appartenant à toutes les classes de la cité, fleurissaient de leurs chapeaux aux bouquets assortis, aux plumes extravagantes, aux rubans multicolores, la bruyante foule qui se pressait sous la coupole vitrée du hall. En somme, pour l'immense majorité, les actionnaires présents à cette assemblée pouvaient être considérés non seulement comme des partisans, mais comme des amis personnels des membres du conseil d'administration. Une observation, cependant, les délégués européens, suédois, danois, anglais, hollandais et russes occupaient des places spéciales, et s'ils assistaient à cette réunion, c'est que chacun d'eux avait souscrit le nombre d'actions qui donnait droit à une voix délibérative. Après avoir été si parfaitement unis pour acquérir, ils ne l'étaient pas moins actuellement pour dauber les acquéreurs. On imagine aisément quelle intense curiosité les poussait à connaître la communication que le président Barbicane allait faire. Cette communication, on n'en doutait pas, jetterait la lumière sur les procédés imaginés pour atteindre le pôle boréal. N'y avait-il pas là une difficulté plus grande encore que d'en exploiter les houillères ? S'il se présentait quelques objections à produire, Eric Baldenak, Boris Karkov, Jacques Janssen, Jan Harald ne se gêneraient pas pour demander la parole. De son côté, le major Donnellan, soufflé par Dean Toodrink, était bien décidé à pousser son rival, Impey Barbicane, jusque dans ses derniers retranchements. Il était 8 heures du soir. Le hall, les salons, les cours du Gun Club resplendissaient des lueurs que leur versaient les lustres Edison. Depuis l'ouverture des portes assiégées par le public, un tumulte d'incessants murmures se dégageait de l'assistance. Mais tout se tut lorsque l'huissier annonça l'entrée du conseil d'administration. Là, sur une estrade drapée, devant une table à tapis noirâtre, en pleine lumière, prirent place le président Barbicane, le secrétaire J.T. Maston, leur collègue le capitaine Nicholl. Un triple hurrah, ponctué de grognements et de hips, éclata dans le hall et se déchaîna jusqu'aux rues adjacentes. Solennellement, J.T. Maston et le capitaine Nicholl s'étaient assis dans la plénitude de leur célébrité. Alors le président Barbicane, qui était resté debout, mit sa main gauche dans sa poche, sa main droite dans son gilet et prit la parole en ces termes. « Souscripteurs, souscriptrices, le conseil d'administration de la North Polar Practical Association vous a réunis dans les salons du Gun Club afin de vous faire une importante communication. Vous l'avez appris par les discussions des journaux. Le but de notre nouvelle société est l'exploitation des houillères du pôle arctique, dont la concession nous a été faite par le gouvernement fédéral. Ce domaine, acquis après vente publique, constitue l'apport de ses propriétaires dans l'affaire dont il s'agit. Les fonds mis à leur disposition par la souscription close le 11 décembre dernier vont leur permettre d'organiser cette entreprise dont le rendement produira un taux d'intérêt inconnu jusqu'à ce jour en n'importe quelles opérations commerciales ou industrielles. Ici, les premiers murmures approbatifs qui interrompirent un instant l'orateur. « Vous n'ignorez pas, reprit-il, comment nous avons été amenés à admettre l'existence de riches gisements de houille, peut-être aussi d'ivoire fossile, dans les régions circumpolaires. Les documents publiés par la presse du monde entier ne peuvent laisser aucun doute sur l'existence de ces charbonnages. Or, la houille est devenue la source de toute l'industrie moderne, sans parler du charbon ou du coke utilisé pour le chauffage, de son emploi pour la production de la vapeur ou de l'électricité. » Faut-il vous citer ces dérivés, les couleurs de garance, d'orseille, d'indigo, de fuchsine, de carmin, les parfums de vanille, d'amande amère, de reine des prés, de girofle, de wintergreen, d'anis, de camphre, de thymol et d'héliotropine, les picrates, l'acide salicylique, le naphtol, le phénol, l'antipyrine, la benzine, la naphtaline, l'acide pyrogallique, l'hydroquinone, le tanin, la saccharine, le goudron, l'asphalte, le brai, les huiles de graissage, les vernis, le prussiate jaune de potasse, le cyanure, les amers, etc., etc. » Et après cette énumération, l'orateur respira comme un coureur époumonné qui s'arrête pour reprendre haleine. Puis, continuant grâce à une longue inspiration d'air, « Il est donc certain, dit-il, que la houille, cette substance précieuse entre toutes, s'épuisera en un temps assez limité par suite d'une consommation à outrance. Avant 500 ans, les houillères en exploitation jusqu'à ce jour seront vidées. »« 300 !» s'écria un des assistants. « 200 !» répondit un autre. « Disons dans un délai plus ou moins rapproché, reprit le président Barbicane. Et mettons-nous en mesure de découvrir quelques nouveaux lieux de production, comme si la houille devait manquer avant la fin du XIXe siècle. » Ici, une interruption pour permettre aux auditeurs de dresser leurs oreilles, puis une reprise en ces termes. « C'est pourquoi, souscripteurs et souscriptrices, levez-vous, suivez-moi et partons pour le pôle !» Et de fait, tout le public s'ébranla, prêt à boucler ses malles, comme si le président Barbicane eût montré un navire en partance pour les régions arctiques. Une observation jetée d'une voix aigre et claire par le major Donnellan arrêta net ce premier mouvement, aussi enthousiaste qu'inconsidéré. « Avant de démarrer, demanda-t-il, je pose la question de savoir comment on peut se rendre au pôle. Avez-vous la prétention d'y aller par mer ?»« Ni par mer, ni par terre, ni par air, » répliqua doucement le président Barbicane. Et l'assemblée se rassit en proie à un sentiment de curiosité bien compréhensible. « Vous n'êtes pas sans connaître, » reprit l'orateur. « Quelles tentatives ont été faites pour atteindre ce point inaccessible du sphéroïde terrestre ? Cependant, il convient que je vous les rappelle sommairement. Ce sera rendre un juste honneur aux hardis pionniers qui ont survécu et à ceux qui ont succombé dans ces expéditions surhumaines. » Approbation unanime qui courut à travers les auditeurs, quelle que fût leur nationalité. En 1845, reprit le président Barbicane, l'anglais Sir John Franklin, dans un troisième voyage avec l'Erebus et le Terror, dont l'objectif est de s'élever jusqu'au pôle, s'enfonce à travers les parages septentrionaux et on n'entend plus parler de lui. En 1854, l'Américain Kane et son lieutenant Morton s'élancent à la recherche de Sir John Franklin. Et s'ils revinrent de leur expédition, leur navire Advance ne revint pas. En 1859, l'anglais McClintock découvre un document duquel il apparaît qu'il ne reste pas un survivant de la campagne de l'Erebus et du Terreur. En 1860, l'Américain Hayes quitte Boston sur le schooner United States, dépasse le 81e parallèle et revient en 1862, sans avoir pu s'élever plus haut malgré les héroïques efforts de ses compagnons. En 1869, les capitaines Kolderweil et Hegemann, allemands tous deux, partent de Bremerhaven sur la Hansa et la Germania. La Hansa, écrasée par les glaces, sombre un peu au-dessous du 71e degré de latitude et l'équipage ne doit son salut qu'à ses chaloupes qui lui permettent de regagner le littoral du Groenland. Quant à la Germania, plus heureuse, elle rentre au port de Bremerhaven, mais elle n'avait pu dépasser le 77e parallèle. En 1871, le capitaine Hall s'embarque à New York sur le steamer Polaris. 4 mois après, pendant un pénible hivernage, ce courageux marin succombe aux fatigues. Un an plus tard, le Polaris, entraîné par les icebergs, sans s'être élevé au 82e degré de latitude, est brisé au milieu des banquises en dérive. 18 hommes de son bord, débarqués sous les ordres du lieutenant Tyson, ne parviennent à regagner le continent qu'en s'abandonnant sur un radeau de glace au courant de la mer Arctique, et jamais on n'a retrouvé les 13 hommes perdus avec le Polaris. En 1875, l'anglais Nares quitte Portsmouth avec l'Alerte et la Découverte. C'est dans cette campagne mémorable où les équipages établirent leur quartier d'hiver entre le 82e et le 83e parallèle que le capitaine Markham, après s'être avancé dans la direction du nord, s'arrête à 400 milles seulement du pôle arctique dont personne ne s'était autant rapproché avant lui. En 1879, notre grand citoyen Gordon Pennett, ici, 3 hurrahs poussés à pleine poitrine acclamèrent le nom du grand citoyen, le directeur du New York Herald. Arme la Jeannette, qu'il confie au commandant Delon, appartenant à une famille d'origine française. La Jeannette part de San Francisco avec 33 hommes, franchit le détroit de Bering et, prise dans les glaces à la hauteur de l'île Herald, sombre à la hauteur de l'île Bennett, à peu près sur le 77e parallèle. Ces hommes n'ont plus qu'une ressource, c'est de se diriger vers le sud avec les canots qu'ils ont sauvés ou à la surface des icefields. La misère les décime. Delon meurt en octobre. Nombre de ses compagnons sont frappés comme lui et 12 seulement reviennent de cette expédition. Enfin, en 1881, l'Américain Greely quitte le port Saint-Jean de Terre-Neuve avec le steamer Proteus afin d'aller établir une station à la baie de Lady Franklin, sur la terre de Grant, un peu au-dessous du 82e degré. En cet endroit est fondé le Fort Conger. De là, les hardis hiverneurs se portent vers l'ouest et vers le nord de la baie. Le lieutenant Lockwood et son compagnon Brainard, en mai 1882, s'élèvent jusqu'à 83 degrés 35 minutes, dépassant le capitaine Markham de quelques milles. C'est le point extrême atteint jusqu'à ce jour, c'est l'ultima thule de la cartographie circumpolaire. Ici, nouveau hurrah panaché des hips réglementaires en l'honneur des découvreurs américains. Mais, reprit le président Barbicane, la campagne devait mal finir. Le Proteus sombre, ils sont là, 24 colons arctiques voués à des misères épouvantables. Le docteur Pavy, un Français, et bien d'autres sont atteints mortellement. Greely, secouru par la Tétis en 1883, ne ramène que 6 de ses compagnons. Et l'un des héros de la découverte, le lieutenant Lockwood, succombe à son tour, ajoutant un nom de plus au douloureux martyrologue de ces régions. Cette fois, ce fut un respectueux silence qui accueillit ces paroles du président Barbicane, dont toute l'assistance partageait la légitime émotion. Puis il reprit d'une voix vibrante. « Ainsi donc, malgré tant de dévouement et de courage, le 84e parallèle n'a jamais pu être dépassé, et même... on peut affirmer qu'il ne le sera jamais par les moyens qui ont été employés jusqu'à ce jour, soit des navires pour atteindre la banquise, soit des radeaux pour franchir les champs de glace. Il n'est pas permis à l'homme d'affronter de pareils dangers, de supporter de tels abaissements de température. C'est donc, par d'autres voies, qu'il faut marcher à la conquête du pôle. » On sentit au frémissement des auditeurs que là était le vif de la communication, le secret cherché et convoité par tous. « Et comment vous y prendrez-vous, monsieur ?» demanda le délégué d'Angleterre. « Avant 10 minutes, vous le saurez, Major Donellan, » répondit le président Barbicane. « Et j'ajoute, en m'adressant à tous nos actionnaires, ayez confiance en nous, puisque les promoteurs de l'affaire sont les mêmes hommes qui, s'embarquant dans un projectile cylindro-conique, « cylindro-comique !» s'écria Dean Toodrink, « ont osé s'aventurer jusqu'à la Lune. » Et on voit bien qu'ils en sont revenus, ajouta le secrétaire du major Donellan, dont les observations malséantes provoquèrent de violentes protestations. Mais le président Barbicane, haussant les épaules, reprit d'une voix ferme, « Oui, avant 10 minutes, souscripteurs et souscriptrices, vous saurez à quoi vous en tenir. » Un murmure fait de « Oh !» et « Ah !» prolongé accueillit cette réponse. En vérité, il semblait que l'orateur venait de dire au public « Avant 10 minutes, nous serons au pôle ». Il poursuivit en ces termes. « Et d'abord, est-ce un continent qui forme la calotte arctique de la Terre ? N'est-ce point une mer ? Et le commandant Nerz n'a-t-il pas eu raison de la nommer mer paléochristique, c'est-à-dire mer des anciennes glaces ? À cette demande, je répondrai « Nous ne le pensons pas ».« Cela ne peut suffire !» s'écria Éric Baldenac. « Il ne s'agit pas de ne point penser, il s'agit d'être certain. » « Eh bien, nous le sommes, répondrai-je à mon bouillant interrupteur. Oui, c'est un terrain solide, non un bassin liquide dont la North Polar Practical Association a fait l'acquisition et qui maintenant appartient aux États-Unis sans qu'aucune puissance européenne n'y puisse jamais prétendre. » Murmure au banc des délégués du Vieux Monde. « Bah, un trou plein d'eau, une cuvette que vous n'êtes pas capable de vider !» s'écria de nouveau Dean to Drink. Et il eut l'approbation bruyante de ses collègues. « Non, monsieur, répondit vivement le président Barbicane. Il y a là un continent, un plateau qui s'élève, peut-être comme le désert de Gobi dans l'Asie centrale, à 3 ou 4 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Et cela a pu être facilement et logiquement déduit des observations faites sur les contrées limitrophes, dont le domaine polaire n'est que le prolongement. Ainsi, pendant leurs explorations, Nordenskjold, Peary, Maygar ont constaté que le Groenland va toujours en montant dans la direction du nord. À 160 km vers l'intérieur, en partant de l'île Disko, son altitude est déjà de 2300 mètres. Or, en tenant compte de ces observations, des différents produits, animaux ou végétaux trouvés dans leurs carapaces de glace séculaire, tels que carcasses de mastodontes, défenses et dents d'ivoire, troncs de conifères, on peut affirmer que ce continent fut autrefois une terre fertile, habitée par des animaux, certainement, par des hommes peut-être. Là furent ensevelies les épaisses forêts des époques préhistoriques qui ont formé les gisements de houille dont nous saurons poursuivre l'exploitation. Oui, c'est un continent qui s'étend autour du pôle, un continent vierge de toute empreinte humaine et sur lequel nous irons planter le pavillon des États-Unis d'Amérique. Tonnerre d'applaudissements. Lorsque les derniers roulements se furent éteints dans les lointaines perspectives d'Union Square, on entendit glapir la voix cassante du major de Nélan. Il disait « Voilà déjà 7 minutes d'écoulées sur les 10 qui devaient nous suffire pour atteindre le pôle. » « Nous y serons dans 3 minutes, » répondit froidement le président Barbicane. Il reprit « Mais si c'est un continent qui constitue notre nouvel immeuble, et si ce continent est surélevé, comme nous avons lieu de le croire, il n'en est pas moins obstrué par les glaces éternelles, recouvert d'icebergs, d'icefields et dans des conditions où l'exploitation en serait difficile. « Impossible !» dit Jan Harald qui souligna cette affirmation d'un grand geste. « Impossible, je le veux bien !» répondit Impi Barbicane. « Aussi, est-ce à vaincre cette impossibilité qu'ont tendu nos efforts ? Non seulement nous n'aurons plus besoin de navires, ni de traîneaux pour aller au pôle, mais grâce à nos procédés, la fusion des glaces anciennes ou nouvelles s'opérera comme par enchantement et sans que cela nous coûte ni un dollar de notre capital, ni une minute de notre travail. » Ici, un silence absolu. On touchait au moment psychologique, suivant l'élégante expression que murmura Dean to Drink à l'oreille de Jacques Janssen. « Messieurs, reprit le président du Gun Club, Archimède ne demandait qu'un point d'appui pour soulever le monde. » « Eh bien, ce point d'appui, nous l'avons trouvé. Un levier devait suffire au grand géomètre de Syracuse, et ce levier, nous le possédons. Nous sommes donc en mesure de déplacer le pôle. »« Déplacer le pôle ?» s'écria Éric Baldenac. « L'amener en Amérique ?» s'écria Jan Harald. Sans doute le président Barbicane ne voulait pas encore préciser, car il continua disant « Quant à ce point d'appui, ne le dites pas ! Ne le dites pas !» s'écria un des assistants d'une voix formidable. « Quant à ce levier, gardez le secret, gardez-le !» s'écria la majorité des spectateurs. « Nous le garderons, » répondit le président Barbicane. Et si les délégués européens furent dépités de cette réponse, on peut le croire. Mais malgré leur réclamation, l'orateur ne voulut rien faire connaître de ses procédés. Il se contenta d'ajouter « Pour ce qui est des résultats du travail mécanique, travail sans précédent dans les annales industrielles, que nous allons entreprendre et mener à bonne fin grâce au concours de vos capitaux, je vais vous en donner immédiatement la communication. Écoutez, écoutez !» Et si on écouta, Tout d'abord, reprit le président Barbicane, l'idée première de notre œuvre revient à l'un de nos plus savants, dévoués et illustres collègues, à lui aussi la gloire d'avoir établi les calculs qui permettent de faire passer cette idée de la théorie à la pratique. Car si l'exploitation des houillères arctiques n'est qu'un jeu, déplacer le pôle était un problème que la mécanique supérieure pouvait seule résoudre. Voilà pourquoi nous nous sommes adressés à l'honorable secrétaire du Gun Club, J.T. Maston. « Hurrah ! Hip 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 pour J.T. Maston !» cria tout l'auditoire, électrisé par la présence de cet éminent et extraordinaire personnage. Ah ! Combien Mrs. Evangelina Scorbitt fut émue des acclamations qui éclatèrent autour du célèbre calculateur et à quel point son cœur en fut délicieusement remué. Lui, modestement, se contenta de balancer doucement la tête à droite puis à gauche et de saluer du bout de son crochet l'enthousiaste assistance. Déjà, cher souscripteur, reprit le président Barbicane, lors du grand meeting qui célébra l'arrivée du Français Michel Ardan en Amérique, quelques mois avant notre départ pour la Lune, et ce Yankee parlait aussi simplement de ce voyage que s'il eût été de Baltimore à New York. J.T. Maston s'était écrié « Inventons des machines, trouvons un point d'appui et redressons l'axe de la Terre. » Eh bien, vous tous qui m'écoutez, sachez-le donc, les machines sont inventées, le point d'appui est trouvé et c'est au redressement de l'axe terrestre que nous allons appliquer nos efforts. Ici, quelques minutes d'une stupéfaction qui, en France, se fut traduite par cette expression populaire mais juste, elle est raide, celle-là. Quoi ? Vous avez la prétention de redresser l'axe ? S'écria le major Donnellan. Oui, monsieur, répondit le président Barbicane. Ou plutôt, nous avons le moyen d'en créer un nouveau, sur lequel s'accomplira désormais la rotation diurne.
Modifier la rotation diurne ?
Répéta le colonel Kharkov, dont les yeux jetaient des éclairs. Absolument, et sans toucher à sa durée, répondit le président Barbicane. Cette opération reportera le pôle actuel à peu près sur le 67e parallèle, et dans ces conditions, la Terre se comportera comme la planète Jupiter, dont l'axe est presque perpendiculaire au plan de son orbite. Or, ce déplacement de 23 degrés 28 minutes suffira pour que notre immeuble polaire reçoive une quantité de chaleur suffisant à fondre les glaces accumulées depuis des milliers de siècles. L'auditoire était haletant. Personne ne songeait à interrompre l'orateur, pas même à l'applaudir. Tous étaient subjugués par cette idée à la fois si ingénieuse et si simple, modifier l'axe sur lequel se meut le sphéroïde terrestre. Quant aux délégués européens, ils étaient simplement abasourdis, aplatis, annihilés, et ils restaient bouche close au dernier degré de l'ahurissement. Mais les applaudissements éclatèrent à tout rompre. Lorsque le président Barbicane acheva son discours, par cette conclusion sublime dans sa simplicité. Donc, c'est le soleil lui-même qui se chargera de fondre les icebergs et les banquises et de rendre facile l'accès du pôle Nord.
Ainsi, demanda le major Donnellan, puisque l'homme ne peut aller au pôle, c'est le pôle qui viendra à lui?
Comme vous dites, répliqua le président Barbicane.